Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous abordons à la lumière de la Bible des sujets qui peuvent toucher au quotidien.
Car nous sommes convaincus que Jésus représente une espérance dans ce monde malheureux.
La violence au sein de la famille. Nous y apporterons un regard biblique.
Oseriez-vous refuser une invitation au mariage royal? Pour en savoir plus, écoutez notre méditation biblique.
Nous allons donc poursuivre nos discussions sur la violence et, avec notre invité André, chercher à comprendre ce que la Bible en dit. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est celui de la violence au sein de la famille. Il s'agit d'un sujet délicat. Pourtant, ce phénomène touche d'innombrables familles à travers le monde, et énormément de personnes souffrent en silence de cet aspect caché de la violence. André, est-ce que ce problème apparaît dans la Bible?
Je peux dire que tout apparaît dans la Bible, et oui, elle contient le récit de certaines familles qui ont été touchées par ce problème.
Pouvez-vous en citer quelques-uns?
Il y a l'exemple de Joseph vers la fin du livre de la Genèse. Joseph était le fils préféré de son père, il en est devenu fier. Ses frères aînés ne l'ont pas apprécié et ont fini par former le projet de le tuer. Dès que l'occasion s'est présentée, ils l'ont vendu à des marchands d'esclavage afin de s'en débarrasser. Le roi David aussi, tristement, a assisté à des déchirements violents dans sa propre famille. L'un de ses fils, Amnon, a violé sa demi-sœur, Tamar. Absalom, le frère de celle-ci, a tué le coupable pour venger l'honneur de sa sœur, étant donné que le père, David, avait à peine réagi.
Quelle est l'attitude de la Bible envers ces actes?
La Bible décrit ce qui s'est passé dans ces familles, mais n'approuve pas du tout le recours à la violence dans ces situations. Si l'histoire de Joseph finit bien, avec le pardon, la réconciliation et un nouveau départ, on ne peut pas nier que cette famille, et surtout Joseph, a subi les lourdes conséquences de la violence. Et dans la famille de David, la Bible relate que le cercle de violence s'est poursuivi pendant de longues années. En bref, la Bible n'approuve pas la violence conjugale ou familiale, et elle montre toute la souffrance et la douleur des relations brisées qu'elle peut entraîner, des conséquences qui peuvent perdurer pendant des générations.
Mais selon la Bible, quelle est la cause ou l'origine de ce genre de violence?
Dieu a créé la femme pour l'homme, et l'homme pour la femme, afin qu'ils vivent ensemble, en harmonie et en paix dans l'union que nous appelons le mariage. Le mari et sa femme devaient se compléter et s'aider mutuellement. Ils devaient chercher toujours le bien de l'autre, voilà l'idéal désiré par Dieu. Toutefois, le péché est entré dans le monde, et ceci a tout faussé. Suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu a dit à la femme « Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il s'agit de Genèse chapitre 3, verset 16.
Et comment interprétez-vous ce texte?
C'est que le péché, le mal, va toucher toutes les relations humaines, même les plus importantes et les plus intimes, celles du mariage. Au lieu d'une relation d'amour qui recherche le bien de l'autre, le mariage peut devenir un lieu de conflit où nous cherchons à dominer l'autre, où l'autre devient davantage une possession ou un esclave qui existe pour nous servir. Dans le pire des cas, cette lutte pour le pouvoir et cette résistance deviennent tellement intenses que l'on a recours à la violence, qu'elle soit physique ou morale, afin d'imposer sa volonté sur l'autre.
Y a-t-il un remède à ce phénomène? Les familles déchirées par la violence peuvent-elles s'en sortir?
Il y a effectivement un remède, facile à proposer, mais plus difficile à mettre en pratique au quotidien. Il s'agit tout simplement de saisir et de vivre la vision biblique du mariage.
Et quelle est cette vision biblique du mariage?
Lisons ensemble quelques paroles de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » Et ensuite, « Marie, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Paul développe son argument dans ce sens pour finir avec les mots « Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. » L'amour dont il est question dans ce texte n'est ni sentimental ni sexuel, même si ces choses ont leur place dans le mariage. Mais il s'agit ici d'un amour qui est comme l'amour de Christ envers son Église. C'est un amour qui cherche à faire le bien, qui cherche à servir les intérêts de l'autre. Il suffit de demander, est-ce qu'une femme qui est violente envers son mari le respecte? Ou bien est-ce qu'un homme qui bat sa femme l'aime? Évidemment non, la violence ne sert pas le bien-être ou les intérêts de son conjoint. Elle ne crée que souffrance, elle n'a pas de place dans le mariage tel que Dieu le conçoit.
Il me semble, selon ce que vous avez dit la dernière fois, qu'une facette de l'amour de Christ et qu'il est disposé à pardonner, qui cherche la réconciliation, est-ce quelque chose que l'on doit retrouver au sein de la famille ?
Vous avez tout à fait raison. Nous avons vu la dernière fois que Jésus ne réglait pas ses problèmes par la violence. Nous rencontrerons inévitablement des problèmes dans nos familles, des désaccords, des mésententes. Mais comment y réagir? Par la violence, cela ne fera qu'aggraver la situation. Non, il faut régler ces problèmes autrement, par la communication, par la discussion, avec un désir de retrouver la paix, un désir de considérer l'autre, d'avoir un cœur prêt à pardonner ses fautes et d'être soi-même prêt à se remettre en question quant à ses propres fautes.
Si l'on veut faire des progrès vers cet idéal du mariage, il vaut mieux que l'on y travaille à deux, non?
C'est sûr. Si l'une des parties ne veut pas coopérer, ne veut pas changer, il n'y a pas beaucoup d'espoir, surtout si celui qui refuse cette voie est celui qui pratique la violence. C'est une chose sur laquelle nous devons travailler ensemble. J'ajouterai toutefois qu'il vaut mieux travailler à trois.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le sens de cette énigme?
La Bible dit « La corde à trois fils ne se rompt pas facilement ». Un couple marié doit inclure Dieu dans sa vie. Il doit laisser Dieu régner dans son ménage, il doit laisser Dieu diriger le couple. Il doit chercher en Dieu toutes les qualités nécessaires pour réussir son mariage. Et la force de dire non lorsque des mauvais sentiments poussent les conjoints vers la violence, avec Dieu l'impossible devient possible.
Mais si l'un des deux refuse de renoncer à la violence, quel conseil donnerez-vous à celle ou celui qui ont les victimes de son agressivité?
Malheureusement, c'est trop souvent le cas et c'est une question difficile à aborder, surtout en quelques secondes. Quelques brèves remarques donc. D'abord, Dieu a compassion des victimes, c'est-à-dire de ceux qui souffrent de l'injustice et de la violence, quelle qu'en soit l'origine. Il faut donc chercher en Dieu un refuge, un ami, un confident, un secours. Je n'ose pas garantir une délivrance spectaculaire et immédiate, mais en temps voulu, Dieu exaucera. Ayez donc foi en lui. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, d'un soutien, il faut oser le chercher. Oser briser le silence auprès de personnes de confiance. Mais il est vrai, de telles personnes ne sont pas forcément faciles à trouver et il faut réagir avec prudence et sagesse.
Merci André pour votre contribution sur ce sujet difficile. Nous sommes conscients d'avoir dit peu de choses, mais prions Dieu qu'il apporte un véritable secours aux familles affligées par ce fléau.
Lisons à présent des versets trouvés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités « Maintenant le repas est prêt, j'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses, tout est prêt, venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Ils prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent.
Un chef du village se fait une joie de préparer le festin de noces de son fils. Il envoie des invitations à chacun et à chacune pour lui donner le privilège et le plaisir d'assister à ce banquet magnifique et de jouir de sa générosité. Petit à petit, les réponses arrivent. Non, non, et encore non. Je dois emmener ma vache au marché. Je dois réparer ma bicyclette. Je préférerais écouter la radio. Il ne s'agit pas d'une ou de deux exceptions. Personne ne veut venir. Tous ont répondu non. Imaginez la déception, la confusion, la colère du chef. Une telle conclusion en réponse à une telle invitation est inimaginable. C'est du jamais entendu. Du jamais entendu? Non. Quand Jésus a justement raconté une parabole dans laquelle les événements prennent cette tournure inattendue, les invités du roi ont été convoqués pour assister à une fête somptueuse, le mariage de son fils, mais ils refusent de venir, tous. Et certains maltraitent les serviteurs qui ont eu la gentillesse de leur délivrer cette invitation merveilleuse. Qui aurait cru que les choses finiront ainsi? Quel est le sens de cette histoire? Quand Jésus a raconté cette parabole, il se trouvait à Jérusalem, devant une grande foule. Il était venu annoncer la bonne nouvelle, que Dieu pardonnerait les fautes de ceux et celles qui acceptent de reconnaître en Jésus le roi promis par les prophètes. La plupart n'ont pas voulu. Et Jésus savait que bientôt, il finirait par être maltraité et condamné à mourir. Jésus présente cette parabole devant la foule comme un miroir dans lequel elle doit apercevoir le reflet de sa propre attitude. Dieu fait part à ces gens d'une invitation formidable et ils trouvent tous n'importe quelle excuse pour décliner cet honneur, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun motif valable. Jésus désire montrer aux gens que leur attitude envers lui est absurde. Aujourd'hui, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ se poursuit. La bonne nouvelle qu'en Jésus, nous avons un Sauveur qui nous permet de nouer une relation personnelle avec un Dieu dont la largesse, l'amour et la miséricorde dépassent l'imagination. Et pourtant, cette invitation, cette bonne nouvelle, rencontre souvent indifférence et opposition. Les gens donnent n'importe quelle excuse pour éviter de dire oui, mais en réalité, ils n'offrent aucune raison valable à leur refus. Qu'en est-il pour vous? Quelles sont vos excuses? Car cette même invitation, cette même bonne nouvelle s'adresse à vous. C'est absurde de sombrer dans une vie mauvaise quand Dieu vous offre ce qu'il y a de meilleur. Quand nous entendons cette parabole du festin, nous voyons qu'il est incompréhensible de refuser une telle invitation. Pourquoi cela est-il alors si difficile de dire oui à l'Évangile, oui à l'amitié avec Dieu?
Bien d'autres surprises apparaissent dans l'histoire de ces noces qui tournent mal. Ne manquez pas la suite des événements lors de notre prochaine émission.
Nos familles devraient être un milieu offrant la paix et la sécurité. Avec l'aide de Jésus, nous pouvons y travailler. En attendant, la suite de notre série, je vous dis au revoir et à la prochaine.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.